C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, première question pour les commissaires ce matin. Est-ce que Québec aura le courage, la capacité de se priver des agences de santé privées? Luc?
Pas partout. Quand tu regardes les chiffres, plus tu t'éloignes de Montréal, plus les agences sont présentes. On est à 18% dans le Grand Nord, Rouyn-Noranda, 16%, etc. Beaucoup de difficultés de rétention des infirmières là-bas. Pas parce que les infirmières ne veulent pas travailler pour le public, parce qu'il n'y en a pas. C'est du fly-in, fly-out, et les agences gèrent ça assez bien. Aussi, il y a certains horaires où ça va être très difficile dans certaines régions, comme par exemple, travail nuit, fin de semaine, Gaspésie. T'sais, ça va être difficile, parce que ton stock d'infirmières que tu veux garder à temps plein, tu vas les avoir mis sur d'autres horaires. Mais à part de ça, oui, il faut absolument le faire. C'est impossible de pas le faire. C'est impossible de pas éliminer le plus possible les agences parce que l'intention du gouvernement, c'est d'affecter les infirmières en fonction de la charge de travail. Hein. Vous avez vu avec la fusion de toutes les conventions collectives, l'idée c'est de dire, ben toi tu travailles plus pour tel hôpital, tu travailles plus pour tel CIS, ben oui tu travailles pour tel CIS, mais à la limite je pourrais te changer. Au sein du CIS en tout cas je peux te changer. Et ça, tu peux pas faire ça puis donner la part belle à un groupe d'infirmières qui, elles, choisiraient quand est-ce qu'elles veulent aller travailler, à quelles heures elles veulent aller travailler, puis où elles veulent aller travailler, en fonction du fait qu'elles répondent oui ou non à l'agence qui les engage. D'ailleurs, juste ça, donc ça déjà, ça serait une iniquité incroyable dans le monde qui s'en vient. Ça l'était dans le monde déjà aujourd'hui, même avant l'affectation forcée des infirmières, si elle se produit, parce que on reproche aux infirmières de s'être sauvées de la COVID. Les infirmières qui ont travaillé, qui étaient dans le public, puis qui ont dit, oh, moi, je vais aller travailler en agence, puis pendant 12 mois, ils n'ont pas levé la main pour travailler. Maintenant, ils veulent réintégrer le système. Les syndicats disent, wow, oui, mais pas d'ancienneté. Parce que nous, on était au front, nous, on a affronté la COVID, vous êtes partis pendant ce temps-là. Fait que, il y a un sentiment d'injustice. Donc, il faut absolument éliminer le maximum possible d'agences, ne serait-ce que pour ces raisons-là. Et après, il y a la raison financière.
Alors, on peut se demander si c'est un geste courageux ou dangereux. J'ai envie de répondre les deux. Courageux, oui, assurément, parce que les agences pompent énormément de deniers des contribuables. Mais il faut dire que les agences existent parce que à la base, il y a une crise structurelle de pénurie de main d'œuvre. Et le gouvernement se donne 2 ans pour atteindre l'objectif. Puis tu l'as dit, là, que c'est déployé en fonction des CIS et des CIUSSS qui sont en centre urbain, dans les régions périphériques et éloignées. Pour les régions, je fais le même constat que toi. Luc, ça sera extrêmement difficile. Je parlais en fin de semaine à une préposée aux bénéficiaires qui de la Côte-Nord qui m'expliquait qu'à l'hôpital de Sept-Îles, par exemple, il y a des corps complets de soir ou de nuit qui sont comblés grâce aux travailleurs des agences. Là, pas à 90%, pas 80% comblés par des travailleurs d'agence, 100% comblés par des travailleurs d'agence. Alors, et l'impact se fait déjà sentir parce que même dans les milieux, dans les CIS qui sont en milieu urbain, parce que dans les milieux urbains, on dit, bien, vous avez jusqu'en octobre pour mettre fin au recours aux agences, mais il y a déjà des CIS et des CIUSSS qui ont commencé et il y a certains corps de travail où il manque d'employés. Fait que donc, il y a déjà des impacts dans les hôpitaux pour les patients, dans les CHSLD pour les résidents. Et si vous croyez que des scandales de bains qui n'arrivent pas et de couches souillées là, sont terminés, oubliez ça. Là. Moi, je pense qu'il va y avoir d'autres scandales liés à une prestation de service qui sera déficiente parce que dans certains CIS et CIUSSS de région, on aurait décidé de mettre la hache sur la contribution des agences. Ce que je déplore, c'est l'attitude déployée par le gouvernement. C'est une attitude qui ne laisse aucune place, un dialogue possible avec les représentants des agences de santé, les agences de, pas de santé, mais les agences de placement. Je dis pas que les agences de placement, là, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Certaines agences ont exagéré. Le tarif moyen en agence est de 128 $, alors que dans le réseau public, là, c'est à peu près autour de 48-49 $. On va faire un chiffron, mettons 50 $. Alors, c'est sûr qu'il y a des agences qui ont exagéré. Monsieur Patrice Lapointe, j'ai reçu hier à l'émission, qui représente les agences, l'admet lui-même. Mais ce qu'ils déplorent, c'est qu'ils ont peut même pas engager un dialogue avec le gouvernement pour dire, écoutez, dans certaines régions, ça va peut-être être difficile. Il n'y a pas un sous-ministre, il n'y a pas un membre du cabinet du ministre de la Santé qui souhaite les rencontrer. Ça, je trouve ça extrêmement déplorable. Et le ministre de la Santé nous dit, ben moi, je compte sur la négociation des nouvelles nouvelle convention collective pour résorber le problème de la main-d'œuvre, pour régler le problème de la main-d'œuvre. Donc là, c'est comme si c'était un peu de la pensée magique. Tu sais, ben, on a juste adopté une loi pour interdire les agences, on se fie sur les conventions collectives pour que nos employés reviennent dans le réseau public. Mais écoutez, là, entre le dire et le faire, il y a tout un monde. C'est pas vrai qu'actuellement, ça court que les employés des agences quittent à pleine porte pour retourner dans le réseau public. Là, c'est vraiment pas ce qui se passe sur le terrain.
Moi, je suis d'accord, Nathalie, quand tu dis attendez-vous à des impacts. Là. Oui,
ben oui,
quand tu fais une réorganisation, là, métaphoriquement, on dit des fois il va y avoir du sang sur ces murs. Là, c'est pas la bonne expression à utiliser dans ce cas-là, mais il va y avoir des listes d'attente. Il va y avoir des zones, des domaines où on ne pourra pas servir les clients. Et dans que tu puisses pas servir à Rivière-Rouge en urgence le samedi soir, encore là, tu peux fermer l'urgence, mais que tu puisses pas servir à quelqu'un qui a un problème grave lié à une maladie chronique à Montréal ou à Québec un samedi soir, là, c'est un méchant problème, par exemple.
Mais excuse-moi, là, pourquoi tu fermerais l'urgence à Rivière-Rouge? Les citoyens de Rivière-Rouge, c'est pas des citoyens de seconde zone? Tu vois, ils ont droit aussi
ben
à
moi,
avoir des services.
Moi, je calcule pas en seconde zone, je calcule en achalandage.
C'est
puis en capacité de déplacement.
Moi, je dis, on s'obstinera pas là-dessus, là,
OK,
ce matin,
mais mettons un hôpital de référence. Un hôpital de référence, on va dire, à Sainte-Agathe ou à Laval. Il reste toujours ouvert. Et puis des hôpitaux plus périphériques que tu peux peut-être fermer. Et quand je dis peut-être fermer, c'est pas que c'est mon intention de dire c'est une bonne idée de fermer, c'est que je dis c'est ça qui va se passer à cause du manque d'infirmières.
Mais ça n'arrivera pas parce que politiquement, tu peux pas, puis juridiquement, il y a une injonction. Tu sais, un député de la CAQ qui voit son urgence fermée, je te jure.
Il n'est pas réélu. Mais Paul, tu mets le doigt sur le bobo. Est-ce que la CAQ est capable politiquement de faire ça? Est-ce que la CAQ est capable? Parce que là, t'as des horaires qui vont jusqu'à 200 $ de l'heure. Parce que personne veut faire cet horaire-là dans cette région-là à ce moment-là. Et le recours à l'agence est quasiment impossible à éviter.
Et dans les appels d'offres qu'ils ont déposés,
c'est 72 piastres maximum.
Ah, écoute, ils ont mis des plafonds. Un, deux, il y a des pénalités importantes pour les agences. Si tu prends, mettons, tu dis, moi, je décroche le contrat, puis je suis pas capable de donner le service, j'ai des amendes à 1000. Ce que je veux dire, c'est que la question fondamentale, je trouve, est-ce que les infirmières qui sont ailleurs, et pas juste dans les agences, il y en a ailleurs, là, ont le goût de revenir travailler dans le secteur public?
La réponse, c'est non, Paul.
Okay.
C'est non. Elles
oui,
nous le disent.
Et moi, je dis oui. Parce que ça sera pas le goût, ça va être le bâton. Et pourquoi?
C'est ça. Que
donc, en ce moment, il y a un service. Le gouvernement a dépensé 3 milliards de dollars en agence l'an passé. 3 milliards de dollars en agence. Trois fois la valeur du stade olympique dont on a parlé toute notre vie. Et pourquoi? Parce qu'il y a un service. Je suis pas capable d'avoir du monde au public. Je vais chercher en agence. La fille est sur l'étage. Je dis, hey, elle part à 3 heures. Elle est payée plus que moi. Mais merci, bonsoir pour le public. Moi, je m'en vais en agence. Puis à un moment donné, le fait d'aller en agence prive le public. C'est plus le fait de manquer du monde au public est comblé par les agences. C'est le fait qu'il y a tellement de dépenses en agence de personnel qu'il y en a plus qui veulent travailler pour le public. Ça, c'est la
exact.
Première chose. Et l'autre,
ouais.
L'autre affaire, c'est que le gouvernement, là, dans ce gouvernement, dans cette affaire-là, le gouvernement est tout bon, là. Il fait tout ce qu'il peut pour empêcher ce cercle vicieux-là de se créer. Il a augmenté sensiblement le salaire des infirmières. Il interdit les agences. Il contrôle le magasinage de postes à l'interne. Il y a une stratégie de recrutement très agressive. Ils vont voir les agences. Ils vont dire, regarde, tu travailles en agence, toi, c'est fini. Dans deux semaines, tu n'as plus de salaire. La seule possibilité que tu puisses travailler encore pour nous, c'est si tu viens t'inscrire sur la liste.
Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Je vais te le dire pourquoi. Parce qu'il ne manque pas d'infirmières au Québec.
Exact.
C'est-à-dire que, oui, les agences, mais il y a des infirmières ailleurs que dans les agences. Et ce personnel-là fait le choix. Il y a des infirmières qui sont même plus infirmières, là, qui ont décidé de faire d'autres, pour toutes sortes de raisons. La question, c'est est-ce que, puis je la repose, ce qui est sur la table comme conditions de travail vont faire en sorte que, oui, je reviens vers la profession et, oui, je reviens vers le secteur public.
OK, alors,
je ne sais pas, mais Nathalie, vas-y.
Ben moi, j'ai envie de dire, moi, mon premier réflexe, c'est de dire non. Je pense aux CIUSSS de Capitale Nationale qui recrutent de manière agressive, là, qui vont vers les employés des agences. Ils réussissent, là, 70-80. Mais moi, ce que je déplore dans ce dossier, puis parler à des employés actuellement d'agence, ils vont tous vous dire, en tout cas, beaucoup vont vous dire, il n'y a pas question que je retourne dans le public. Mais ce que je déplore, c'est qu'on fait porter tout l'odieux de ce qui se passe dans le réseau de la santé pour ce qui est de la pénurie de personnel aux agences, alors que le gouvernement a lui-même créé le problème en offrant de piètres conditions de travail aux employés. Alors, c'est facile de trouver un bouc émissaire actuellement.
Mais Nathalie, je suis pas d'accord.
Je répète, les agences, oui. Non, tu sais, c'est sûr qu'elles ont leur tort. Mais Luc, tu peux pas dire que tout est de la faute des agences, c'est
oui.
Pas vrai. Ça.
Non, pas tout est de la faute de l'agence, mais tout est de la faute à notre incroyable hédonisme, à toute la société québécoise. J'ai essayé d'avoir un rendez-vous avant 3 heures pour une patente à gosse qui nécessite même pas un médecin, là, juste un technicien. Impossible. Ça n'existe pas. Moi, que tu sais, jusqu'à 3 heures au micro, OK? Je peux pas m'absenter. Ben oui. C'est ben impossible. Oui. Il quitte à 3 heures. C'est pas normal. C'est une société hédoniste. On a créé, nous, cette société hédoniste-là. Et les infirmières en font partie. Je ne dis pas qu'il faut cibler les infirmières en disant qu'elles sont moins bonnes que les autres. Tout le monde veut partir à 3 heures. S'ils se présentent au travail.
Incluant les employés municipaux.
Qu'est-ce que tu dis, toi?
Allez dans les CHSLD la fin de semaine, là. Il y en a pas. Il y a presque pas de préposés les fins de semaine. Les gens veulent avoir leur fin de semaine. Ça rejoint exactement ce que tu dis, Paul. On peut pas vivre dans une société où ça fonctionne comme ça, là. C'est impossible.
Je suis entouré de gens lucides. Rappelez-vous ce mouvement avec M. Bouchard.
Et où quand on a besoin, M. Bouchard?
Oui, travaillez. Alors, 9h15, on vient après, puis on va parler de ce programme qui existe à Laval et dans d'autres villes de payer pour les couches, les culottes d'incontinence réutilisables, entre autres pour adultes.
La commission Normando-Ferrandaise.
Laval n'est pas la seule ville à avoir ce programme. Il y a des programmes comme ça qu'on retrouve dans d'autres municipalités, mais grosso modo, c'est de subventionner pour faire en sorte que les dépotoirs ne débordent pas. L'utilisation de couches, par exemple, d'incontinence réutilisables pour adultes, puis les produits menstruels, est-ce que c'est le rôle d'une ville de faire ça?
Aïe, aïe, aïe. Boswell, comme dirait Luc Ferrandez, hein? Honnêtement, moi, quand j'ai écouté l'entrevue que tu as fait, Paul, avec le maire de Laval, je me suis dit, ben, voyons donc, qu'est-ce que c'est que ça? Tout d'abord, Laval semble faire office de pionnier pour ce qui est d'offrir des couches réutilisables, des couches d'incontinence réutilisables. Puis, on peut fondamentalement se demander ce que c'est cette mission est compatible avec le champ de compétences des municipalités. Moi, j'ai envie de vous dire non. Non. Utiliser les taxes et des contribuables municipaux pour offrir ce genre de produits aux citoyens. Je ne crois pas que ce soit le rôle d'une municipalité de le faire. Ça appartient plutôt au gouvernement provincial via toutes ces instances. Également, les organisations communautaires qui souvent comptent sur des subventions du gouvernement. Le maire te répond, bien, écoutez, il ne s'agit pas d'utiliser les taxes des contribuables, mais bien de financer ce genre de mesures par l'écofiscalité. C'est-à-dire que des promoteurs sont obligés de payer une forme de taxe, une forme de taxe. Puis avec cet argent-là, ben là, nous, on finance ce genre de programme. Moi, j'ai un gros malaise. La Ville de Montréal a annoncé il y a quelques mois une trousse de bébés d'une valeur de 200 $. J'ai aussi un grand malaise. Il y a tellement d'autres priorités dans les villes. L'autre chose, c'est que pour les produits menstruels, il semble y avoir un genre d'exception parce que il y a 95 municipalités à peu près au Québec qui ont décidé d'emboîter le pas pour offrir dans leur communauté, dans leur municipalité, des produits menstruels gratuits pour les femmes. Et sur 1100 municipalités, c'est quoi? C'est 10 % à peu près des municipalités qui offrent ce genre de mesures. Je suis plus sensible je peux pas être insensible à cette dimension. Je suis moi-même une femme et il y a des données qui confirment qu'il y a une femme sur 5 qui ont déjà déclaré avoir manqué de budget pour se procurer ce dont elles ont besoin pour assumer leurs règles de manière adéquate. Alors, je suis sensible à ça, mais en même temps, je me dis, mon Dieu, si les municipalités veulent faire une différence pour ces femmes, pour ces, par exemple, toutes ces personnes qui ont besoin de couches, pourquoi pas verser une subvention à des organismes communautaires qui pourraient aider ces personnes. Puis sachez également, puis merci à Marois Risky qui vient d'envoyer ça, le programme d'aide, il y a un programme d'aide qui existe pour les couches d'incontinence, ça s'appelle le programme d'aide matérielle pour les fonctions d'élimination, quel beau titre, n'est-ce pas? Ça relève des CIUS et des CIS pour les couches d'incontinence. Au gouvernement, on a une capacité absolument extraordinaire, hein, d'inventer des noms de programmes.
Il y a un comité qui existe
poétiques.
Juste pour trouver des noms de programmes.
Oui, je le rappelle, pour ceux et celles qui en auraient besoin, les couches d'incontinence, c'est programme d'aide matérielle pour les fonctions d'élimination. Alors voilà, enfin, mais je me dis, mon Dieu, est-ce que c'est moi qui est trop rétrograde? Est-ce que je suis pas de mon temps? Enfin, je me suis posé toutes ces questions en préparant le sujet ce matin, les amis.
Mais écoute, moi, je comprends qu'il l'ait fait, parce que moi-même, j'étais obligé de le faire, puis en me pinçant le nez, parce que je me disais, Moses, que ça a l'air superficiel, puis que c'est pas bon. Mais parce que au niveau des coûts, ça s'applique, là, c'est correct. Économiquement, il y a un gain. Une couche lavable coûte 1,70 $. Puis il en faut 30 pour éliminer une tonne de déchets. Ce qui fait 51 $ de couche lavable. Tandis que l'élimination d'une couche de déchets coûte 180 $. Donc, l'élimination d'une tonne de déchets coûte 3 fois plus cher que si tu donnes des subventions pour les couches lavables. Bon, ceci étant l'argument économique. Ensuite, il faut dire que pour les personnes âgées, 90% des couches d'incontinence, c'est pour l'incontinence urinaire. Donc, laver des couches lavables pour l'incontinence urinaire, c'est pas une opération qui est impossible à faire. Là, c'est pas quelque chose qu'on doit exclure de nos vies. Bon, ceci étant dit, si tu veux vraiment faire de l'écofiscalité, commençons par le compostage. Je veux dire, programme de compostage obligatoire, payant, pénalisé, etc., ça va rapporter 1000 fois plus que les couches lavables. Tu sais, il y a des domaines, puis Nathalie t'a mentionné la boîte à bébé aussi, là. Puis la boîte à bébé, je me permets de donner une petite course sur la boîte à bébé, parce que il y a tout le temps du monde qui court ses étages en municipalité en disant, on va planter des affaires au coin des rues, là, on va se prendre des tomates, là, ça va nourrir le monde, ou on va donner des boîtes pour les bébés, puis on va avoir des couches lavables et des produits menstruels gratuits. Ah, ils courent, cling, 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 avec des sonnettes. Tout, c'est ce qu'on va être content. Et tous ces maudits programmes-là, c'est du nice to have, comme disent les Anglais.
C'est un show de boucan.
C'est un show de boucan par rapport aux vraies choses. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de faire les vraies choses.
Mais moi, ce que je comprends pas, là, c'est que qu'il y ait des mesures, comme tu dis, quoi, structurantes. Hein, c'est ça, c'est l'expression. Ça, moi, je suis d'accord avec ça. Moi, quand je vois les mères saupoudrées des affaires de même, je me dis, mais ils braillent parce qu'ils n'ont pas une scène. Puis là, ils nous arrivent avec des affaires, finalement, un qui leur apporte rien, qui change peu de choses, par rapport à des enjeux beaucoup plus importants. Puis là, là, je regardais le sondage ce matin. Le gouvernement devrait dépenser moins. Hein? On veut que ça coupe dans les dépenses. Puis on arrive avec des programmes comme ça. Penses-tu qu'Éric Girard à Québec qui va dire à Laval, t'as de l'argent pour ça, toi, le grand? Ben, je t'en donne un peu moins ou je t'en donne pas autant que tu veux.
Mais ça, c'est la nature humaine, Paul. Moi, je travaillais dans une équipe qui faisait de la restructuration pour Hydro-Québec à un moment donné, OK? Puis, ils ont dit, vous allez faire le tour des régions, vous allez demander c'est quoi le problème, c'est quoi les problèmes dans votre unité. Systématiquement, dans toutes les unités, nous autres, il nous manque de budget, mais à part de ça, ça va pas pire. Par contre, l'autre équipe là-bas... Sauf qu'il y en a beaucoup trop de budget,
ben oui.
Puis ils font pas les choses correctement. L'idée, c'est tout le temps de dire on peut couper ailleurs. Et ce que je n'aime pas là-dedans, justement, c'est que dans des programmes comme ça, c'est une façon de dire on va faire de l'écologie sans toucher les grosses affaires. Non. Sais-tu pourquoi? Les programmes de couches jetables ne sont pas utilisés. Les budgets à fin d'année restent sur les tablettes.
Hier, là, j'ai retenu, puis Nathalie, le président de l'Ordre des dentistes qui était avec nous, les gens qui reçoivent des allocations d'aide sociale ont le droit à des soins dentaires gratuits. 50% ne se servent pas de ce programme-là. Hein? Donc, c'est pas parce que c'est gratuit que les gens automatiquement vont aller se faire nettoyer les dents.
Paul, je te jure, nous autres, il y avait comme 3 citoyens sur 100 000 qui avaient pris la subvention, qui étaient disponibles. La subvention, c'est 50% des coûts, OK? Maximum 150 $ par année, des municipalités, 200. Il y avait 3-4... Dans chaque village, il y a 3-4 personnes seulement qui le prennent. Fait que pourquoi on parle de ça? Parce que ça nous empêche. On se dit, ah oui, ben, c'est quoi qu'on pourrait faire?
On a
faire,
posé un geste.
Oui, le développement durable. comment qu'on pourrait faire le développement durable? C'est-tu quoi? Facture l'évidence, je fais en faire de l'écofiscalité, puis en Simonac. À Laval, là, est-ce qu'il y a une politique pour la taille des maisons? Est-ce que, par exemple, dans l'urbanisme ou dans l'écofiscalité, tu dis, toi, t'occupes 200 pieds de frontage parce que ta maison est immense, ben, tu vas payer pour 200 pieds de frontage dans les services municipaux? Non. C'est ça, l'écofiscalité. L'écofiscalité, c'est dire, si t'habites puis que tu utilises, vous êtes une tour, vous utilisez 400 pieds de frontage, mais vous êtes 60, vous allez payer moins que le gars qui a un bungalow qui a 200 pieds de frontage. Non, ils feront pas ça. Ils vont mettre des couches jetables. Ils vont mettre un programme de couches jetables. C'est ça, l'insondable superficialité de l'être.
Ouais, c'est très gauche, hein. Ça fait très gauche caviar. Mais écoute, QS, rappelez-vous, le combat qu'a mené QS à l'Assemblée nationale pour assurer la gratuité des produits menstruels.
Puis je reviens là-dessus. Des employeurs le fassent, je comprends
oui,
ça.
Voilà.
Mais qu'une ville le fasse, c'est autre chose, là.
Ouais. Les employeurs le font au Québec. Il y a 115 entreprises à peu près qui ont emboîté le pas de ce côté-là. Dans le réseau universitaire collégial également, il y a plusieurs initiatives. Mais t'as raison, Paul. Pour ce qui est des municipalités, tu dis, ben voyons donc, c'est pas dans la mission fondamentale d'une ville de s'occuper de ça. Ça fait une belle jambe à beaucoup de mères. Ça fait bien dans une conversation de salon un samedi soir, mais on essaie de se donner bonne conscience, comme tu le dis, Luc, mais en réalité, on manque la cible royalement.
On s'arrête là-dessus. On vous retrouve demain.
C'est 23.